Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition spéciale toujours consacrée à la guerre au Moyen-Orient. Nous sommes au 41e jour du conflit. Bonsoir Olivier Truchot.
Bonsoir à tous, bonsoir.
L'Iran reste maître du détroit d'Ormuz, le Liban est toujours frappé, le Hezbollah et les soldats israéliens s'affrontent d'ailleurs toujours au sud du pays. L'ambassadeur d'Israël en France sera notre invité tout à l'heure à 17h25. On a les négociateurs américains et iraniens qui s'organisent pour la rencontre au Pakistan à partir de vendredi. Voilà pour planter le décor. On a bien évidemment aussi toutes nos équipes, nos envoyés spéciaux, nos correspondants qui sont sur les lieux de ce conflit pour nous rendre compte le plus précisément des faits, des réactions politiques bien sûr, de la stratégie qui se met en place. On va commencer par aller retrouver Élise Phillips. Elle est à Beyrouth au Liban pour BFM TV, une capitale libanaise qui est véritablement en deuil après les bombardements meurtriers d'hier.
Exactement, et aujourd'hui ça a été déclaré jour férié par la présidence du Conseil des ministres. Toute la journée, les institutions, les administrations publiques ont été fermées, les drapeaux ont été mis en berne, parce que effectivement ici au Liban c'est un jour de deuil. Tous les habitants qu'on a croisés avec Julie Roser depuis maintenant plus de 24 heures après ces frappes sont en état de choc, de sidération. On ressent du désarroi aussi, ils nous disent ne pas avoir compris ce qui s'est passé. Ils ne s'attendaient absolument pas à vivre une telle journée hier, alors même qu'un cessez-le-feu avait été annoncé moins de 12 heures avant pour le Moyen-Orient. Bien sûr, ça ne concernait pas le Liban, mais tout de même, ces frappes massives de la part d'Israël en plusieurs endroits du Liban et notamment ici à Beyrouth, ça a choqué énormément de monde. Ces gens, ces habitants, ils ont regardé hier les images de destruction, les corps sortis des décombres. Et aujourd'hui, avec Julie, nous étions sur l'un des lieux de frappe. On a vu des gens revenir sur les lieux de ces frappes, se prendre dans les bras, avoir des mots réconfortants les uns pour les autres. Certains avaient les larmes aux yeux aussi parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer dans les prochaines heures. Il y a eu un mouvement de panique hier. Aujourd'hui, on est plus dans la sidération. Mais la question aussi se pose de savoir quel va être le destin du pays dans les prochaines heures et les prochains jours, puisque pour le moment, Israël a expliqué qu'elle avait encore des plans, des cibles du Hezbollah à éliminer. Et il y a de nouveaux quartiers en ce moment à Beyrouth, des quartiers sud notamment, mais pas que, qui ont été appelés à évacuer. Il y a un mouvement de panique des gens qui sont en train de quitter leurs habitations, leurs immeubles, pour se réfugier dans des zones théoriques plus sûr. On sent donc cette appréhension aussi. Il y a le deuil, il y a aussi l'appréhension, puisque tout le monde a l'impression que ce n'est pas terminé pour le Liban.
Élise Phillips avec Julie Roser en direct de la capitale libanaise. La preuve de l'intensité, de l'intensification de ces frappes. Regardez ce qui s'est passé dans un quartier de Beyrouth, justement. Ce sont des images qui viennent de caméras de vidéosurveillance. Selon un bilan provisoire, les frappes ont fait plus de 200 morts, un millier de blessés et les appels à évacuer se multiplient, à évacuer le sud du pays parce que les frappes vont continuer.
Justement, Benjamin Petrovert, on a appris qu'Israël avait émis un nouvel appel à évacuer aux habitants de Beyrouth Sud. On peut s'attendre à de nouvelles frappes ?
Oui, puisque la trêve est d'une certaine façon une aubaine pour l'armée israélienne qui peut désormais se concentrer sur le front libanais et ne pas avoir à diviser les opérations, ce qui est quelque chose d'assez compliqué, épuisant, entre le Liban et l'Iran. Alors évidemment, quand on voit ces images, on peut évidemment penser aux victimes civiles, sauf que, côté israélien, on affirme mordicus qu'il y a 200 membres du Hezbollah qui ont été éliminés lors de cette opération. Alors évidemment, peut-être qu'il y a aussi des victimes civiles. Je ne vais pas utiliser le mot dégâts collatérales parce que ce sont des êtres humains et c'est toujours affreux.
Sûrement.
Et évidemment, sûrement il y en a. Mais en tout cas, côté israélien, on affirme que 200 membres du Hezbollah ont été éliminés. Ça dit quelque chose, vous avez raison Olivier, c'est que cette frappe est revendiquée, elle est assumée et même elle était minutieusement organisée. Donc évidemment, les images qui sont là font penser qu'il y a peut-être eu des explosions qui n'auraient peut-être pas été prévues ou dans des lieux pas prévus. En tout cas, il va falloir faire le ménage dans les heures qui viennent pour savoir précisément qui fait partie des victimes et s'il s'agit bel et bien de membres du Hezbollah.
La France et d'autres pays veulent inclure le Liban dans le cas du cessez-le-feu régional qui va se négocier, si tout va bien, ce week-end au Pakistan. Mais on voit bien que, pour le moment, le gouvernement israélien ne veut pas entendre de cesser le feu concernant le Liban. Il y a une opération qui est menée, qui est assumée, même si effectivement elle a fait beaucoup de dégâts, notamment chez les civils. Elise Phillips en a parlé. On voit quand même qu'il y a une détermination d'un côté et des pays qui essaient de trouver une solution. Pour l'instant, ils ne l'ont pas trouvée.
On est au bord de la crise entre Israël et l'Union européenne, entre la France et Israël. La France qui condamne officiellement des frappes disproportionnées et inacceptables. C'est une citation. Mais l'Union européenne aussi menace de suspendre l'accord d'association qui existe entre Israël et l'Union européenne depuis les années 2000. Ce qui serait évidemment une façon très concrète, si vous voulez, de réagir à ces frappes qui suscitent effroi et condamnation un peu partout en Europe, mais aussi ailleurs. Par exemple, le Premier ministre du Pakistan, qui a été le médiateur et le négociateur du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, affirme que le Liban était bien inclus dans l'accord de cessez-le-feu. Alors, il y a une polémique aujourd'hui pour savoir s'il y a eu incompréhension, erreur de traduction, etc. Mais aujourd'hui, le Premier ministre du Pakistan dit, j'en suis certain, c'était inclus.
Donc, que Donald Trump a dit que le Liban n'était pas inclus.
Oui, c'est bien le problème. Il y a un désaccord profond sur cette question-là. Mais que ça soit inclus ou pas inclus, on voit bien le décalage entre, d'un côté, la volonté américaine de faire un cessez-le-feu en Iran et le refus total d'Israël d'en tenir compte. C'est-à-dire que Israël l'a dit clairement hier, nous restons le doigt sur la gâchette, c'est ce qu'a dit le Premier ministre Netanyahou, le doigt sur la gâchette pour intervenir en Iran, mais aussi, pour nous, la guerre n'est pas finie, elle n'est pas finie en Iran. Et elle n'est pas finie.
Alors justement,
au Liban contre le Hezbollah. La question qui est posée ce soir, c'est est-ce que on peut laisser Israël continuer à bombarder alors que le Liban vit une crise humanitaire absolument dramatique, que le pays est sans dessus dessous. Il y a maintenant plus d'un million de réfugiés. On parle maintenant de près de 1800 morts au total. Et c'est un pays qui est en plein chaos. Est-ce que c'est le moment de bombarder? C'est une question qu'il faut poser aux Israéliens. Est-ce que c'est le moment de bombarder, même si vous avez l'intention de frapper des commandants du Hezbollah, est-ce que ça vaut toutes ces victimes civiles?
Bertrand Galichet, ce qu'on veut comprendre, c'est qu'on a l'impression qu'Israël a été exclu des négociations de cessez-le-feu entre les Iraniens et les Américains, que ça peut être empêché d'ailleurs les Israéliens d'aller au bout de leurs objectifs, puisqu'ils voulaient faire tomber le régime des Mollahs, qui n'est pas tombé à l'heure actuelle. Donc finalement, il leur reste à obtenir une victoire au Liban, c'est-à-dire anéantir le Hezbollah. Il faut que Benjamin Netanyahou puisse dire à sa population « j'ai rempli au moins des objectifs ».
Oui, ça fait partie naturellement des buts de Netanyahou, ça ne fait absolument aucun doute. Ensuite, chacun interprète cet accord de cessez-le-feu selon ce qui l'arrange, c'est aussi extrêmement clair. Mais il y a une interrogation à ce stade, c'est pourquoi maintenant ce type de frappe et dans quel but en réalité? Et la réponse plausible, c'est que d'une part, les Israéliens, le gouvernement israélien craint que peut-être Trump, si il y a un accord qui se profile, un accord sérieux qui se profile avec l'Iran, que Trump torde le bras à Israël pour l'empêcher de continuer ses opérations ou en tout cas l'obliger à limiter ses opérations contre le Hezbollah. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, ça n'est qu'une hypothèse, mais elle n'est pas absurde, c'est que Netanyahou cherche à saborder cet accord de paix qui se profile.
Il ne voulait pas cet accord de paix.
Il n'en veut pas parce que, naturellement, son objectif, c'est d'aller plus loin et de faire tomber le régime iranien qui continuera, quoi qu'il arrive, à le menacer, cet accord étant a priori déjà une forme de victoire pour les Iraniens, puisque le régime est toujours en place et que une fois que l'accord sera signé, s'il intervient, eh bien le régime iranien sera toujours là, les missiles iraniens seront toujours à portée de l'État hébreu et donc la menace continuera à exister.
Ali Chéri, vous êtes avec nous, vous êtes artiste, vous êtes cinéaste en fait, franco-libanais. Vous avez déposé deux plaintes, vous avez déposé plainte le 2 avril dernier en France pour crime de guerre contre l'armée israélienne. En fait, c'est une frappe de l'armée israélienne contre un immeuble en novembre 2024 dans la capitale libanaise, à Beyrouth. Et vos deux parents sont morts ce jour-là. Ce qui se passe, c'est exactement ce qui continue, ce qui a tué vos parents il y a deux ans quasiment.
Exactement. Donc, c'était le 26 novembre, donc on est quelques heures avant que le cessez-le-feu soit mis en vigueur. Donc, c'est à ce moment-là où l'armée israélienne a attaqué plusieurs cibles civiles à l'intérieur de Beyrouth, donc dont l'immeuble et l'appartement où habitaient mes parents, donc dans un quartier complètement résidentiel où il n'y a jamais eu d'activité militaire. Donc c'est un
cas. Jamais eu de cash du Hezbollah non plus.
Non. Donc nous, notre plainte, donc c'est une plainte contre X, se porte aussi sur un rapport que Amnesty International a publié le mois de février et qui, le rapport, c'est sur plusieurs attaques, dont celui qui a tué mes parents, et qui dit que ce quartier-là, il n'y a jamais eu d'activité militaire. Le rapport aussi conclut qu'il y a assez de raisons de croire qu'il y a eu violation des droits de l'homme et qu'ils appellent à ce que cette attaque soit, qu'il y ait une enquête autour de cette attaque pour crime de guerre.
Comment, à l'époque, cette frappe avait été justifiée si elle avait été par Otsal?
C'est exactement le problème, c'est que nous, on fait partie des attaques où il n'y a pas eu d'ordre d'évacuation et il n'y a même pas eu de revendication que s'il y avait un cible ou un assassinat. On n'est pas le seul cas, il y en a eu plusieurs comme ça. Donc pour nous aujourd'hui, on ne sait pas, on ne comprend pas pourquoi.
Combien il y a eu de morts dans cette frappe?
Donc il y a eu 7 morts, 7 civils, dont mes parents.
Parce qu'Israël dit toujours les immeubles qui sont visés ou les installations qui sont visées de manière précise abritent ou des cadres du Hezbollah ou du matériel caché par le Hezbollah. Est-ce que ça aurait pu être le cas sans que malheureusement vos parents ou les habitants de la résidence le sachent?
Je crois que c'est ça exactement le problème. C'est que Israël parle d'opérations légitimes. Ce que nous, on conteste, c'est vraiment ce déni. C'est pas à Israël de décider de la légalité des actions. Donc nous, avec cette plainte, ce qu'on essaye de faire, c'est de ramener cette attaque devant la justice pour qu'il y ait des juges indépendants qui puissent dire s'il y avait crime de guerre ou pas.
Aucune procédure judiciaire n'a pour l'instant été ouverte depuis donc novembre de 2024, ni au Liban, ni dans d'autres États concernant ces attaques. Donc finalement, vous avez l'impression qu'on oublie la mort de vos parents?
Bien sûr, c'est-à-dire à travers cette plainte, moi ce que j'essaye de faire, c'est là on entend 200 victimes, je crois qu'il y en a beaucoup plus sur les attaques.
Simplement regardez cette photo qu'on est en train de montrer.
Ouais, c'est des images qu'on avait, c'est les seules images qu'on a pu trouver dans l'appartement.
Dans les décombres. En
fait. C'est vous entouré de vos parents.
Exactement. Ces attaques-là, nous, ce qu'on est en train de démontrer, que les agissements de l'armée israélienne, en tout cas sur des cibles civiles, se répètent. Ça devient vraiment quelque chose. Donc là, on a vu ce qui s'est passé hier. Donc ça devient.
Vous avez l'impression hier d'avoir revécu ce que vous-même vous avez vécu et vos parents.
Exactement. Pour moi, c'est des images glaçantes de revoir ça. J'ai l'impression de revivre tous les jours le même traumatisme. Et du coup, cette plainte, au-delà du drame qui a touché mes parents, pour moi, c'est ce que vivent aujourd'hui des milliers de civils libanais.
Et les autorités libanaises, parce que finalement, dans toutes nos discussions, on oublie qu'il y a un président au Liban, il est censé avoir un État, mais qui a l'air complètement dépassé, à la fois d'ailleurs par le Hezbollah, mais aussi par les attaques Israël. Finalement, que fait l'État libanais?
Je crois qu'ils sont en train de faire ce qu'ils peuvent, parce que, en tout cas, une action judiciaire comme celle que nous, on est en train de mener n'est pas possible au Liban.
Donc,
c'est pour ça, nous, à cause de la reconnaissance entre le Liban et Israël. Donc, il n'y a pas de relation entre les deux pays. Donc, il n'y a pas la possibilité de porter plainte au Liban. Et c'est pour ça, pour nous, c'était important. Donc, cette plainte que j'ai déposée, c'est avec la FIDH, Fédération internationale des droits de l'homme.
Elle va être instruite par qui, cette plainte, alors?
On a déposé plainte, c'est une plainte civile. Et nous, on demande au procureur général donc de nommer un juge d'instruction pour qu'il y ait une enquête, pour l'ouverture d'une enquête.
Benjamin Petrovert.
Il n'y a rien de plus terrible que de perdre des membres de sa famille, des parents ou des enfants. Donc vous avez évidemment toute mon empathie et on imagine comment ce drame est terrible pour vous. Et évidemment, on va suivre avec intérêt justement l'évolution de l'enquête.
Merci.
Pour connaître précisément les raisons de ce tir. Maintenant, Alain l'a très justement rappelé, le Hezbollah aime, comme le Hamas l'a fait aussi par le passé, aime se cacher au cœur de la population. On imagine que si l'armée israélienne a tiré sur l'immeuble où se trouvaient vos parents, j'ose espérer que c'était pas pour les tuer.
Mais il peut y avoir aussi des bavures.
Il peut y avoir aussi des bavures.
C'est
important ici de clarifier. Donc c'est un immeuble, nous on a vécu dans cet immeuble pendant 50 ans. Donc moi je suis né dans cet appartement, on a traversé 15 ans de guerre civile, le siège de Beyrouth en 82 par l'armée israélienne, la guerre de 2006... Il n'y a jamais eu d'opération militaire dans ce quartier. Nous, on croyait que nos parents sont hors du danger. Sinon, on n'aurait pas laissé mes parents à la retraite dans un appartement.
Je respecte votre témoignage.
En plus, il y a eu un rapport par Amnesty, donc qui a été publié le mois de février. Donc, je crois que quand même, une amnestie, c'est une source crédible. Donc ils ont mené des recherches donc sur ce quartier-là. En plus de la plainte se porte sur un rapport donc qui a été fait par Forensic Architecture. Donc c'est un groupe de recherche scientifique qui produit des preuves donc et qui ont pu identifier donc les trois, donc il y a eu trois bombes qui ont été lancées donc sur le sur l'appartement, donc des bombes intelligentes, des bombes guidées, et donc qui ont mené à la mort de sept civils. Donc ce que nous on est en train de dire et de défendre, c'est-à-dire c'est pas juste, donc si c'est là l'armée israélienne peut avoir un autre récit, il faut le faire devant la justice. C'est ce qu'on est en train de faire.
Oui.
Nous,
oui,
ce sont les preuves que nous on a prouvées.
C'est ce que ce vous dites. Ouais. Ce que je dis, c'est justement, ce serait intéressant de comprendre quelle est leur justification. Oui, comment est-ce que cette opération
dans un immeuble, on peut savoir qui habite dedans, voilà. Et on peut savoir s'il y a eu des caches d'armes ou pas. Donc j'accepte pas qu'on dise ça sur, donc qu'on donne même cette théorie, alors que vous avez mené aucune recherche.
Mais est-ce que l'armée israélienne,
par le passé, que l'armée israélienne et le Hamas se cachent au milieu de
l'armée israélienne est dans la capacité de jouer la transparence, de dire précisément pourquoi cet immeuble a été visé.
Hier, le porte-parole de l'armée israélienne était sur le plateau de BFM TV.
Il a dit
à la question posée, est-ce que vous avez prévu...
Je veux juste finir ma phrase.
Si vous parlez en temps,
je voudrais préciser par exemple qu'aujourd'hui, dans les grandes opérations, mais vous aurez tout le temps de parler, Ulysse, il n'y a pas de problème. Mais juste dans les opérations israéliennes qui ont lieu aujourd'hui, personne ne précise par exemple qu'au même moment, il y a eu des dizaines et des dizaines de vagues de roquettes tiré par le Hezbollah sur le nord d'Israël.
Alors c'est le Hezbollah
donc c'est pas juste
qui a commencé
les opérations
cette
israéliennes, c'est parallèlement le Hezbollah qui continue de tirer. Et vous, les civils iraniens, libanais, pardon, vous êtes les premières victimes de ce conflit qui oppose Israël et le Hezbollah.
Victimes ciblées.
Bien sûr, parce que ni les autorités libanaises, ni la FINUL, ni l'armée libanaise n'ont fait ce qu'il fallait pour éradiquer le Hezbollah.
Un mot, alors Ulysse.
Deux choses. La première, c'est concernant le gouvernement libanais. Ce matin, le Premier ministre du Liban a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies pour protester contre cette nouvelle escalade d'Israël au Liban et surtout pour protester contre les nombreuses victimes civiles qui ont été dénombrées hier, bien sûr, aujourd'hui, ce matin, mais depuis finalement le 2 mars dernier. Donc on verra ce que dit le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais il faut voir qu'il y a une protestation internationale d'ampleur qui ne comprend pas pourquoi Israël, avec la technologie dont l'État israélien dispose, n'arrive pas à faire, comme on dit, entre guillemets, des phrases ciblées, et elle fait exploser des immeubles en plein Beyrouth, qui, évidemment, provoquent des morts civiles. Alors, c'est, je dirais, absolument incroyable de pouvoir dire que ce sont des dégâts collatéraux. Non, ce sont des victimes civiles, premièrement.
Mais j'ai pas dit ça.
Deuxièmement...
J'ai pas dit ça, non, mais on a vu pendant des jours et des jours...
Je parle de...
D'accord, mais pour le coup, Ulysse, on a vu justement plusieurs jours, on a vu des opérations où seul un étage était rasé d'un immeuble.
On a vu les images parlent d'elles-mêmes. Mais la deuxième chose que je voulais dire, c'est que nous avions reçu hier sur BFM TV le porte-parole de l'armée israélienne et je lui ai posé la question en disant « Pourquoi vous n'avez pas prévenu avant les frappes dans les 100 frappes qui ont eu lieu hier en 10 minutes, une opération qui était programmée de longue date, qui n'est pas intervenue alors comme ça d'un seul coup. Et il a répondu, lorsqu'il s'agit de cibler des commandants du Hezbollah, nous ne prévenons pas, parce que si on prévient, à ce moment-là,
ils sont plus là.
Les dirigeants du Hezbollah en profitent pour s'échapper. Oui. C'est ça la justification.
Oui. Alors l'ambassadeur d'Israël sera d'ailleurs...
On a Alizé Boissin qui est en direct de Tel Aviv pour nous, pour BFM TV, parce que... les autorités israéliennes le disent, ne cessent de le répéter, elles vont bel et bien continuer de frapper le Liban, malgré aussi les critiques en interne, malgré les critiques de l'opposition israélienne, Alizé.
Absolument, des critiques il y en a, mais il y a aussi un peuple qui soutient encore ces frappes au Liban. Pourquoi ? Parce que, eh bien, les habitants du Nord, en tout cas c'est les remontées du terrain qu'on a, ils souhaitent en finir avec le Hezbollah et ça permet de justifier ces frappes pour l'armée israélienne. Benjamin Netanyahou l'a répété sur son compte X il y a quelques heures maintenant. Israël frappera partout où est le Hezbollah. Et d'ailleurs, Israël Katz, le ministre de la Défense israélienne, a annoncé avoir éliminé grâce à ces frappes, si on peut le dire ainsi, près de 200 membres du Hezbollah, dont des très proches du leader Naïm Qassem, notamment son neveu et secrétaire, qui a été éliminé lors de ces frappes. Et puis, l'autre justification donnée par l'armée israélienne, c'est que ces frappes, elles permettent, encore une fois, selon l'armée israélienne, de protéger les habitants du Nord. Vous savez, ces habitants qui sont aux alentours de Kiryat Shmona, qui sont en première ligne, finalement, juste à côté de la frontière libanaise et qui subissent encore des menaces menaces de roquettes envoyées par le Hezbollah libanais. Des sirènes d'alerte ont retenti ce matin, notamment sur cette zone. Et ça dénote avec ce que l'on vit ici à Tel Aviv, où la vie reprend peu à peu. Mais c'est vrai que l'on entend cette petite musique des Israéliens qui ne comprennent pas vraiment à quoi joue Benjamin Netanyahou, s'il faut continuer la guerre ou s'il faut l'arrêter. Vous le voyez, cette trêve prononcée maintenant reste sur le fil et la pression est maximale au nord du pays.
Alizé Boissin avec Valentin Rivoli à Tel Aviv. Mais c'est vrai, Général Sidos, comme le rappelait Benjamin Petrobert, il y a toujours des tirs de roquettes qui continuent sur le nord d'Israël.
Là, c'est le Hezbollah qui a commencé cette nouvelle guerre.
Effectivement, mais malgré toutes ces frappes, il y a toujours cette capacité de réplique du Hezbollah. Ils gardent une certaine capacité militaire.
Oui, c'est ça qui paraît toujours incroyable, parce que malgré tous les efforts de l'armée israélienne depuis des années, il y a eu l'interruption quand même entre 2006 et 2023. Grâce à la présence de la finule.
Contrairement à ce que
on peut en parler des heures,
je
peux
en parler. Contrairement à ce que dit Israël, très critique sur le rôle de la finule.
Contrairement à ce que je suis toujours en contact avec un général israélien, il faut moduler l'affaire. Le seul problème là, c'est que
la finule,
il y a de l'émotion. Il y a de l'émotion et ça vous implique directement. Vous avez été sur place.
Et ça m'implique directement.
Mais ses capacités militaires, il est toujours là.
C'est ça qui est absolument incroyable. Alors, il est tout à fait vrai que pendant qu'on était au sud Liban, pendant que la finule était au sud Liban, le Hezbollah s'est reconstitué. C'est certain. Après 2006, ils ont souffert.
En hommes et en armes.
En hommes et en armes, c'est certain. Alors, le problème était que le Hezbollah, largement, malheureusement, un petit peu couvert par les forces armées libanaises, interdisait énormément l'accès à plein d'endroits au sud Liban. Voire, par certains moments, nous interdisait l'accès à la Blue Line, la ligne de séparation.
Donc, ça veut dire qu'ils ont pu entreposer de manière massive, caché
dans des tunnels,
un arsenal qui leur permet de répliquer quand ils le veulent.
Massive, preuve, oui, puisque à partir de 2023,
financé par l'Iran,
bien sûr, financé par l'Iran
et par trafic de drogue aussi.
Par trafic de drogue, on en a beaucoup parlé, mais même éventuellement par trafic maritime, parce que la finule avait il y avait une flotte de la finule avec des tentatives effectivement d'interception. Les Israéliens donnaient parfois des donc on avait des éléments, mais malgré tout le Hezbollah s'est reconstitué, c'est une réalité. Le territoire est quand même vaste. Alors après on peut épiloguer pendant très longtemps sur la finule Fessi. Les forces armées libanaises font ça.
Il y avait quand même dans le dernier accord on avait décidé que l'État libanais devait désarmer le Hezbollah. Alors voilà,
le problème fondamental est là.
Il faut rappeler l'accord. Que l'État libanais avait prévu effectivement de désarmer, qu'une conférence
c'était dans
destinée.
L'accord, hein.
Non mais attendez, l'État libanais avait organisé à Paris avec la France une conférence destinée à donner à l'État libanais les moyens de désarmer. Et la guerre a éclaté, ce qui a fait que cette conférence n'a jamais eu lieu. Alors que l'État libanais soit dans l'incapacité, effectivement, de lutter contre le Hezbollah, c'est une réalité aussi. Ce que le Hezbollah se soit reconstitué, c'est une réalité aussi. Mais la question qui est posée, c'est est-ce que, en appliquant ce qu'on appelle la tactique ou la stratégie de la tondeuse à gazon, c'est-à-dire de réduire en poussière tout ce qui est synonyme de Hezbollah, est-ce que ça permet l'éradication du Hezbollah? On a vu ce qui s'est passé à Gaza et on voit que le Hamas est toujours là. On voit ce qui se passe aujourd'hui au Liban et le Hezbollah est toujours là. Et il faut rappeler que le Hezbollah, certes, c'est une milice avec des armes, des roquettes qui tirent sur Israël, et ça c'est un fait incontestable, mais c'est aussi 30%.
Il a commis aussi des actes terroristes contre la France.
Mais bien sûr,
aussi.
Mais on le sait depuis des années.
La France a payé
mais ça représente
aussi.
30% de la population, ça représente des députés au Parlement libanais, ça représente des ministres au sein du gouvernement. C'est-à-dire c'est certes un mouvement qui doit être condamné et qui l'est régulièrement par la France, par l'Union européenne, etc. Mais cela ne justifie pas des frappes contre des immeubles
dans tous les cas,
en plein centre de Beyrouth qui touchent des civils de façon
pas de solution, en fait, surtout.
Absolument disproportionnée. Les roquettes du Hezbollah, certes, continuent, il faut le dire, et c'est un fait, vous avez raison, mais elles ne font pas les victimes et elles ne détruisent pas les villes israéliennes. Donc, si vous voulez, il y a un décalage, c'est ça qui est quand même absolument troublant, il y a un décalage entre ce qui se passe à Beyrouth, ce qui se passe dans le nord du Liban, et on voit bien que la stratégie, comme ça a été dit, mais il faut le redire, de Netanyahou, elle vise à saboter le cessez-le-feu qui a été mis en place avec grande difficulté et qui est fragile, et extraordinairement fragile, et qui pourrait être capoté à chaque instant.
Le ministre israélien de la Défense s'exprimait il y a quelques heures, justement, sur ces frappes intenses qui visent selon les cibles et le Hezbollah. Et selon lui, il pourrait y avoir comme peut-être un début de négociation ou de cessez-le-feu demandé par le Hezbollah.
L'opération Ténèbres éternelles a porté un coup très dur au Hezbollah, le laissant abasourdi et désorienté par la profondeur de son infiltration et l'ampleur de la frappe. Plus de 200 terroristes ont été neutralisés hier. L'organisation terroriste Hezbollah réclame désespérément un cessez-le-feu et ses soutiens iraniens exercent également des pressions et profèrent des menaces, car ils craignent profondément qu'Israël n'écrase le Hezbollah.
C'est imaginable ça que le Hezbollah puisse demander un cessez-le-feu à Israël et que ça puisse se réaliser. Un temps s'apaiser.
Ben, si on regarde les choses très factuellement, il y a quand même un état des lieux qui est très intéressant et très instructif, c'est le fait que l'armée israélienne au sud du Liban ne progresse pas ou progresse très difficilement. Souvenez-vous, il y a déjà plusieurs semaines, les Israéliens nous expliquaient qu'ils allaient remonter jusqu'au fleuve Litani, c'est-à-dire très haut finalement dans le sud du Liban, pour créer une zone tampon dont on a beaucoup parlé et qui était censée protéger le nord d'Israël. En réalité, aujourd'hui, ils ont avancé de quelques kilomètres pour les raisons que l'on connaît, c'est-à-dire l'imbrication au fond du Hezbollah au sein de la population chiite du sud Liban, qui fait que il y a des caches d'armes partout, que l'armée libanaise n'a rien pu enlever de ces caches d'armes, pratiquement rien, parce qu'elle n'a aucun pouvoir et surtout parce que la population qui est là empêche des opérations massives. Et on peut quand même s'interroger sur la stratégie qui est suivie actuellement par Netanyahou. Est-ce que ces frappes massives et peut-être indiscriminées, ça reste à voir, sur la ville de Beyrouth, ne correspondent pas finalement à l'incapacité de venir à bout du Hezbollah sur la frontière qui est la plus proche d'Israël. Donc voilà, est-ce que c'est pas une façon finalement de continuer à taper sur le Hezbollah à Beyrouth, faute de pouvoir l'atteindre véritablement au sud Liban?
Mais justement, est-ce que Beyrouth est noyautée, infiltrée par le Hezbollah? La population soutient le Hezbollah contre Israël ou la population libanaise aimerait se débarrasser du Hezbollah, Ali Chéri? On essaie de comprendre.
Moi, je suis pas là pour discuter de ça. Moi, je suis là. Je suis pas là pour discuter de ça. Moi, je suis ici pour parler d'un crime qui a eu lieu. Donc, je suis là en tant que fils, en tant que citoyen, en tant que victime.
Mais vous êtes citoyen libanais aussi.
Exactement.
Et que vous cherchez, c'est que la paix et ce qui se passe ne se reproduise pas.
Moi, je cherche d'élucider la vérité. Je cherche à porter ce crime devant des juges, pour qu'ils puissent amener les responsables et que ces responsables puissent rendre des comptes. Donc c'est là, je suis là juste pour parler de la plainte
que nous avez dit effectivement Benjamin Petrovert.
De ce qu'on entend sur ce plateau depuis une dizaine de minutes, c'est qu'au fond personne n'est capable de mettre à bout la menace que représente le Hezbollah. Vous-même, vous l'avez reconnu que malgré la présence de la FINUL, le Hezbollah a continué à s'armer. Mmh. Et vous-même l'avez déclaré sur ce plateau que le Hezbollah vous a même empêché d'accéder à certains secteurs où il stockait ses armes. Alors, il faut le reconnaître, parce qu'on me l'a dit aussi en Israël, il y a des informations qui circulent via la FINUL et c'est aussi le rôle qu'elle joue justement d'être un rôle d'informateur. Mais il n'empêche, aucun acteur, à ce jour, n'a trouvé réussi, la solution magique. Alors, Ulysse, vous avez raison, c'est absolument déplorable de devoir bombarder des immeubles. Je suis le dernier à justifier ça. Mais la question qui se pose, c'est
qu'est-ce qu'on fait pour
mettre à bout d'un groupe qui sème le bazar.
Si vous l'avez, Ulysse, il faut le temps de la donner.
Le Liban, on rêve tous d'avoir un Liban en paix, c'est la première chose. Et d'autre part, qui ne menace pas non plus son voisin, à savoir Israël, qui veut vivre aussi en paix.
Alors, vous dites qu'il n'y a pas de solution. Et effectivement, quand on voit ce brouillard de la guerre...
Ça fait 40 ans qu'il n'y a pas de solution.
Non, mais attendez. Il n'y a pas de solution. Il y a une solution d'abord, ça serait de maintenir la FINUL et de lui donner les moyens d'exister. C'est-à-dire dire à la FINUL qu'elle a le droit, effectivement, de s'interposer, mais pas simplement. Elle a le droit aussi de s'opposer.
Ça veut dire de répliquer et ça veut dire qu'il y ait des morts à la FINUL aussi.
Un peu comme les casques bleus à Sarajevo, vous en souvenez, et le fameux général
Morillon,
qui avait, lui... pris la décision de riposter et de se faire respecter. Donc, il faudrait donner les moyens à la FINUL, alors que malheureusement, je le dis, mais je fais un constat d'échec, puisque la mission de la FINUL va s'arrêter à la fin de l'année, et donc elle va disparaître sans doute, sauf évidemment décision contraire des Nations Unies. Deux, il faudrait donner au gouvernement libanais les moyens de cette politique de désarmement du Hezbollah. Je rappelle que le gouvernement libanais a décidé l'expulsion de l'ambassadeur d'Iran.
Qui est toujours sur place.
Non, mais d'accord. Bah oui. Mais c'est il y a des rapports de force. Il y a des rapports de force. Il faut donner au gouvernement libanais les moyens de sa politique. Je rappelle que le gouvernement libanais a décidé d'interdire toute action armée du Hezbollah depuis le sud Liban. Maintenant, il faut qu'il ait les moyens. Et enfin, le gouvernement libanais, vous dites, il n'existe pas, il n'y a pas de solution, mais il a appelé à un cessez-le-feu et à une négociation directe avec Israël. Pourquoi c'est important? Parce que le Liban n'a président pas encore, sauf erreur de ma part, n'a pas reconnu Israël. Non. Le fait qu'un gouvernement, et qu'un, depuis 1948, le fait que le président du Liban et son premier ministre disent « nous sommes prêts à des négociations directes », c'est de facto une reconnaissance d'Israël. Ça veut dire qu'il y a des solutions. Mais il est clair qu'aujourd'hui, dans la région, il y a un certain nombre d'acteurs qui refusent les solutions. Et je ne parle pas uniquement d'Israël. On voit bien que le Hamas n'était pas pour une solution et que le régime iranien n'est pas non plus pour une solution pacifique.
On va aller aux États-Unis.
Comme le régime iranien est toujours en place.
On va aller aux États-Unis retrouver Antoine Allard en direct pour BFM TV, c'est-à-dire qu'il est à Washington, parce que les Américains ont conclu une espèce de cessez-le-feu. Alors les Américains n'ont plus tirés, ne sont plus passés à l'offensive, mais ce qui se passe en ce moment entre Israël et le Liban, ça pourrait mettre à mal justement la stratégie de Donald Trump.
Oui, en tout cas, on apprend via le média Axios que mardi soir, juste avant l'annonce du cessez-le-feu, Benjamin Netanyahou et Donald Trump se sont parlé au téléphone et que pendant ce coup de fil, il a été décidé qu'Israël pourra continuer ses opérations militaires au Liban. Et depuis, eh bien, l'administration Trump le répète sur tous les tons, le Liban ne fait pas partie de l'accord de cessez-le-feu conclu avec l'Iran. C'est ce qu'a dit la porte-parole de la Maison-Blanche, c'est ce qu'a dit Donald Trump, c'est ce qu'a dit encore hier soir J.D. Vance qui en a remis une couche. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont les Américains parlent de ce qui se passe au Liban. Trump évoque une escarmouche limitée qui sera rapidement réglée. J.D. Vance assure que Israël va faire preuve de retenue, des déclarations qui sont en complet décalage avec la réalité sur le terrain, ce qui pose la question de savoir exactement ce que Benjamin Netanyahou a vendu à Donald Trump pendant ce fameux coup de fil. Est-ce qu'il lui a vendu une opération limitée avec des frappes ciblées? C'est possible, en tout cas quand on écoute l'administration Trump. Tout cela pose aussi la question de savoir pendant combien de temps Donald Trump va accepter ce qui se passe au Liban. Pour le moment, il ne dit rien. En tout cas, il explique que ça n'est pas un problème. Les Américains, en tout cas, font preuve d'un réel optimisme en disant que la situation au Liban ne compromet pas à la fois le cessez-le-feu qui a été conclu avec l'Iran, ni les négociations qui doivent commencer samedi avec cette rencontre en présentiel à Islamabad avec, à la tête de la délégation américaine, le vice-président J.D. Vance.
Merci Antoine Allard. Dans un instant, on revient pour continuer de regarder, bien sûr, ce conflit, la manière dont il s'étend. Et là, c'est focalisé entre Israël et le Liban. Justement, c'est l'ambassadeur d'Israël en France qui sera à notre avis. Oui. Édition spéciale avec notre invité maintenant, l'ambassadeur d'Israël en France. Bonsoir, monsieur Zarqa. Ulysse Gosset, restez avec nous. On va aller au Liban tout de suite, retrouver à Beyrouth Élise Phillips en direct pour BFM TV, parce que avec les équipes de BFM TV, avec Élise Phillips, hier avec Naouf El Kawafi, on a vécu la journée de bombardement intense. Et là, aujourd'hui, c'est jour de deuil dans la capitale libanaise, Élise.
J'entends, j'ai plus le retour.
On vous entend, Élise.
Pardon, je ne vous ai pas entendu.
Élise, je disais que après les bombardements intenses, aujourd'hui, c'était la journée de deuil dans la capitale libanaise.
Exactement, journée de deuil. D'ailleurs, les administrations, les institutions publiques ont été fermées toute la journée. Ça a été déclaré jour férié par le conseil de la présidence des ministres. Les drapeaux ont été en berne toute la journée dans la capitale du Liban. Journée de deuil parce que ce sentiment qu'on ressent parmi la population libanaise, c'est du désarroi, de l'horreur après avoir été témoin de ces frappes massives et indiscriminées de la part d'Israël hier sur le territoire libanais, non seulement dans le reste du pays, mais surtout ici à Beyrouth, où il y a eu une dizaine de frappes en quelques heures. Et les gens que l'on rencontre, eh bien, nous parlent de ce sentiment de terreur. On a rencontré tout à l'heure avec Julie Roser, proche des lieux d'une frappe, une dame qui nous a dit ceci. Pourquoi est-ce que nous avons été visés alors que nous ne sommes pas des combattants? Elle a insisté sur le fait que, eh bien, tous les habitants du Liban ne font pas partie du Hezbollah et donc ne comprennent pas pourquoi eux aussi ils sont visés, parce que hier il y a des quartiers où il n'y avait pas d'avis d'évacuation et qui ont été touchés quand même par les bombardements. C'est un jour de de deuil aujourd'hui avec une ambiance très lourde. Tous les gens que l'on rencontre nous parlent de leur tristesse, ce sentiment encore une fois d'avoir le cœur lourd, de regarder les images qui tournent en boucle sur les télévisions avec des images de destruction, de corps sortis des décombres au fur et à mesure. On est plus de 24 heures après les frappes. Il y a encore des gens qui sont portés disparus, que les secours s'affairent à essayer de trouver dans les décombres, même si l'espoir est mince de retrouver encore des gens vivants, parce que certains ont été ensevelis sous des tonnes de gravats après que des missiles se sont abattus sur leurs immeubles. Donc évidemment, c'est un jour extrêmement dur, un jour d'après extrêmement compliqué pour le Liban. On a entendu des gens nous parler de carnage et ils ne comprennent pas ce qui leur est arrivé hier.
Et voilà, Elise Philips avec Julie Roseur. Monsieur Zarqa, ça a été un carnage, une riposte disproportionnée de la part des Israéliens?
Non. Alors, rentrons dans le domaine de disproportionné. Vous savez combien de missiles, de roquettes et de drones ont été tirés contre mon pays depuis le début de cette guerre? 6500. Ce que nous avons tiré contre le Hezbollah, très spécifiquement contre les terroristes du Hezbollah, n'arrive pas à la moitié de ce chiffre. Pas à la moitié de ce chiffre. 6500 drones, missiles et roquettes ont été tirés sur les civils en Israël. Nous n'arrivons pas à 3000 frappes et toutes nos frappes sont très ciblés.
Ce que l'on voit sur ces images, est-ce que vous êtes sûr d'avoir tué des gens du Hezbollah?
Hier nous avons tué 200 terroristes du Hezbollah.
Il y a aussi des familles, il y a aussi
malheureusement,
des enfants.
Des frappes qui malheureusement qui tuent.
Vous avez entendu cette habitante de Beyrouth qui dit moi j'ai rien à voir avec le Hezbollah.
J'y arrive. Et malheureusement dans une guerre il y a des victimes qui sont des victimes collatérales. Et c'est peut-être le cas de cette dame dont vous parlez. Mais le fait est que nous ciblons seulement les terroristes du Hezbollah. Et si jamais, vous verrez que les cibles, généralement, c'est des appartements.
Voilà.
Des appartements.
Mais quand vous ciblez des appartements, admettons qu'au troisième étage, il y a un dirigeant du Hezbollah, ou du matériel du Hezbollah. Vous savez précisément qu'en ciblant l'appartement, au-dessus ou en dessous, pas le Hezbollah, ce seront des familles qui seront touchées aussi.
Et c'est terrible.
Mais c'est
la faute du Hezbollah. Nous le faisons parce que nous sommes en guerre avec le Hezbollah. C'est eux qui ont initié cette guerre. C'est eux qui ont décidé de frapper. Et je dirais plus, c'est le gouvernement libanais qui, lui, a décidé de ne pas désarmer le Hezbollah. Bien qu'il avait annoncé qu'il avait déjà réussi à désarmer le Hezbollah. Vous savez que des 6500 roquettes, drones et missiles qui ont été tirés sur mon pays depuis le début de cette guerre, 3000 ont été tirés du sud du Litani, du fleuve du Litani, une région qui aurait dû être théoriquement complètement désarmée. Le gouvernement libanais avait annoncé qu'ils avaient réussi à désarmer. Et non seulement cela, mais le gouvernement français avait félicité le gouvernement libanais disant « Bravo, enfin le Hezbollah est désarmé au sud du Liban ». Alors.
Oui, mais
il faut être sérieux quand même.
Ces images que l'on voit, le terme de carnage qui est employé par les Nations Unies pour décrire ce qui s'est passé hier, ces images rappellent celles de Gaza. C'est-à-dire que c'est la même stratégie.
Non, c'est pas du tout la même stratégie. Non,
on frappe.
Non.
On veut effectivement viser le Hamas au Gaza, le Hezbollah au Liban, mais on touche des civils, on tue des enfants.
Il y a quelque chose de semblable dans les deux cas. C'est des terroristes qui se cachent derrière des civils. Qui se cachent derrière des enfants, qui se cachent derrière des familles, parce que c'est des peureux. C'est ça, surtout.
Donc on ne peut pas faire autrement que de sacrifier aussi les civils.
Non, il y a une faire autrement. Le Hezbollah peut baisser leurs armes et dire on arrête de combattre et on arrête de faire la guerre à Israël.
Monsieur l'ambassadeur.
C'est eux qui, n'oublions pas, c'est le Hezbollah qui a décidé de rentrer dans cette guerre.
On voudrait vous montrer des témoignages.
Regardez, c'est simplement ce que disent les médecins des hôpitaux. Libanais, justement, à Beyrouth, on a reçu beaucoup d'enfants éventrés, éviscérés, amputés, avec des traumatismes crâniens, beaucoup de femmes, certaines meurent sur la route.
Mais c'est terrible.
C'est la première fois que l'on reçoit autant d'enfants après les frappes. C'est parce qu'elles ont eu lieu dans des quartiers habités, là où vivaient des familles.
C'est terrible. Le Hezbollah se cache, des dirigeants du Hezbollah se cachent dans des bâtiments comme cela. Ils ont quitté la Darkia.
Donc pour éliminer un dirigeant du Hezbollah ou deux dirigeants du Hezbollah ou du matériel, tant pis le nombre de victimes qu'il y a à côté.
Non, c'est pas tant pis, mais chaque cible est vérifiée et ce qu'on appelle un clearing qui est vérifié pour voir qu'il n'y ait pas trop de dommages collatéraux.
Alors, Élise, une seconde, Élise, parce qu'on a Élise Philips qui est à Beyrouth et qui voulait réagir justement, Élise, à propos de ces hôpitaux qui ont été débordés par l'afflux de blessés et de victimes.
Exactement. Hier, avec Julie Roser, on a passé toute une partie de la journée après ces frappes devant un hôpital de Beyrouth et on a constaté cet afflux de blessés. Et parmi ces blessés, il y avait de très jeunes personnes, notamment des enfants. On a vu sur un brancard une petite fille d'un an et demi qui, a priori, revenait des décombres parce qu'elle avait de la poussière sur elle. Elle était recouverte de poussière. Elle avait du mal à respirer. Elle était, a priori, inconsciente. Et les médecins nous ont confirmé que parmi les autres victimes qu'ils ont reçues pendant la journée, il y avait d'autres enfants. Tout à l'heure, on était sur le lieu d'une autre frappe avec des secouristes plus de 24 heures après qui recherchaient notamment deux enfants au moins de 6 et 8 ans. Ces deux enfants ont eu le malheur de se retrouver au premier étage de leur appartement hier au moment de la frappe. Et c'est vrai que ce discours que donne Israël en disant, en justifiant ces frappes, en expliquant qu'elles ciblaient uniquement des terroristes du Hezbollah, depuis hier que l'on discute avec ses habitants ici à Beyrouth, c'est un discours qui n'est absolument pas entendu, pas entendable ici par les Libanais qui, encore une fois, ont regardé en boucle les images des destructions, des corps sortis des décombres, non seulement des enfants mais aussi des adultes. On a été témoin aussi de scènes déchirantes hier devant cet hôpital. Un couple, par exemple, qui attendait des nouvelles de leur fils, blessé, totalement inconscient. Et à peine 5 minutes après qu'on ait discuté avec ce couple, eh bien, un personnel de l'hôpital est venu leur dire que leur fils était décédé, qu'il avait succombé à ses blessures. On a vu cette dame s'effondrer dans les bras de son mari. Quelques minutes après, on a vu une autre dame qui essayait d'ouvrir la porte d'une ambulance pour voir une dernière fois son fils, parce que son jeune fils était dans un sac mortuaire. Il avait été tué dans ses frappes. Donc ce sont des scènes absolument dramatiques dont on a été témoin ici au Liban. Et quand on parle à ces Libanais, le discours d'Israël, la justification d'Israël, elle n'est difficilement entendable ici.
Voilà, excellence.
Franchement, vous montrez un témoignage de choses terribles, c'est de la guerre. C'est une guerre que nous n'avons pas demandée. Alors, il y a qu'une question. Il y a 6500 missiles et roquettes et drones qui sont tirés contre nos pays.
Et qui font des victimes en Israël aussi.
Ils font aussi des victimes en Israël, mais nous avons la capacité de nous défendre parce que malheureusement, on a dû développer ces capacités de défense. Vous imaginez ce qui serait se passer en Israël, dans le nord du pays, si nous n'avions pas les capacités de défense. 6500 drones, missiles, etc. Ce seraient des centaines et des centaines et des milliers de morts et de victimes. Alors, c'est terrible. Mais c'est ce qui est terrible, c'est que ces personnes, justement, ces Beyrouthiens, je ne sais pas comment ça se dit, ces Libanais, ont une adresse. Et l'adresse, c'est leur propre gouvernement. Ils doivent demander à leur propre gouvernement de faire enfin l'effort de désarmer le Hezbollah.
Ah ben justement.
Parce qu'un choix a été fait. Un choix a été fait par le gouvernement libanais de ne pas désarmer le Hezbollah.
Alors, Ulysse Gosset, ce soir, on parle de négociations.
Oui, d'abord, une chose, c'est que l'information circule selon laquelle le président américain Donald Trump lui-même a demandé au Premier ministre Netanyahou, donc à votre Premier ministre, de modérer ses frappes et de diminuer la capacité de frappe d'Israël contre le Hezbollah, compte tenu des victimes civiles qui sont dénombrées.
Je ne connais pas ces rumeurs.
Oui, mais enfin, c'est dire qu'il y a une véritable inquiétude, même à la Maison-Blanche. Ouais. Deuxièmement, le chancelier allemand, Merz, lui-même dit à Israël, il faut arrêter et il faut reprendre le chemin des négociations. Et ce matin, on apprend que le Premier ministre Netanyahou a décidé d'ouvrir des négociations avec le gouvernement libanais. Des négociations qui sont demandées par le gouvernement libanais depuis déjà plusieurs semaines. Donc, ça veut dire que ça y est, une négociation va permettre de mettre fin à la guerre entre Israël et le Liban.
Je n'ai pas reçu de message officiel me disant que effectivement ça va être le cas, mais je pense que oui, c'est le cas. C'est notre but vous savez, les Libanais sont nos voisins à nous. C'est pas des voisins des Parisiens, ce n'est pas les voisins des gens.
Ce sont pas des ennemis donc les Libanais.
Non seulement ce n'est pas des ennemis, c'est des gens avec qui on a vécu en paix avec et avec qui on veut vivre en paix.
Mais alors, qu'est-ce qui va être négocié entre Israël et le Liban ? Qu'est-ce qui va être négocié ?
La façon de désarmer le Hezbollah. C'est un pays qui a été pris en otage par une organisation terroriste et par un régime des Mollahs à Téhéran. Et qui veut empêcher justement cette paix d'être créée entre nous et le Liban.
Alors, vous savez, monsieur le rappeleur,
aucun problème avec le Libanais.
L'Europe reconnaît que Israël et la France aussi a le droit de se défendre. La question qui est posée aujourd'hui, compte tenu des images que l'on voit, des récits de nos envoyés spéciaux, est-ce qu'il n'y a pas une disproportion entre les frappes israélienne et la réalité de la menace. Alors, la France, officiellement, ouvertement aujourd'hui, parle de frappe inacceptable et disproportionnée. Qu'est-ce que vous répondez aux Européens et à la France ?
Parlons de la disproportion. 6500 missiles et roquettes ont été tirés contre Israël. Vous faites une
grimace. Mais il n'y a pas eu 1500 morts en Israël depuis le début de la guerre.
C'est parce qu'on a la capacité de nous défendre.
Mais vous n'avez pas la capacité de frapper et de cibler plutôt que de
frapper. Est-ce que ça va être proportionné quand on arrivera à 6500 attaques israéliennes contre le Liban? On n'arrive pas, on n'en est pas à la moitié.
Alors, donc Israël va continuer.
Israël continuera tant que le Premier ministre n'aura pas donné pris la décision d'arrêter de faire un cessez-le-feu, justement pour pouvoir arrêter cette guerre terrible.
On parlait de la réaction française. Je vous propose d'écouter le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.
Nous condamnons fermement ces frappes massives qui, comme vous l'avez dit, en 10 minutes, ont fait plus de 250 morts qui s'ajoutent aux 1500 victimes de ce conflit initié par le Hezbollah contre Israël le 2 mars dernier. Et ces attaques sont d'autant plus intolérables qu'elles fragilisent le cessez-le-feu temporaire qui a été trouvé hier entre les États-Unis et l'Iran. L'Iran doit cesser de terroriser Israël par l'intermédiaire du Hezbollah qui doit être impérativement désarmé, rendre ses armes à l'État libanais. Mais non, le Liban ne doit pas être la victime expiatoire d'un gouvernement contrarié. La destruction de l'État libanais ne détruira pas le Hezbollah, au contraire, elle la renforcerait.
Est-ce que Israël est contrarié par le cessez-le-feu qui a été signé entre Américains et Iraniens?
Tout d'abord, je rejette complètement la description d'un gouvernement contrarié. Ce n'est pas un terme qui est utilisé entre...
C'est un cessez-le-feu qu'Israël n'a pas négocié?
Non, pas du tout. Non, c'est un cessez-le-feu qui a été... la décision de ce cessez-le-feu a été prise avec le Premier ministre. Entre Trump et le Premier ministre, entre le président Trump et le Premier ministre, cette décision a été prise ensemble. Nous ne sommes pas un gouvernement contrarié. Non, ce n'est pas le cas.
Le gouvernement israélien soutient les négociations qui vont démarrer ce week-end.
Il y a quelques semaines.
Entre Iraniens et Américains?
Il y a quelques semaines, je pense que j'étais sur votre plateau et vous m'avez demandé encore combien de temps avons-nous besoin. J'avais dit que nous avons encore besoin entre 2 et 3 semaines. Nous arrivions avant le cessez-le-feu à la fin de notre banque de cibles. Quoi qu'il arrive.
Oui, mais pardon,
quand on parle justement des buts de guerre avec l'Iran.
Justement,
nous arrivions à la fin de nos cibles.
Le régime iranien n'est pas tombé.
Non, mais
pourtant,
c'était
un des objectifs.
Le troisième objectif.
Le stock d'uranium n'a pas été récupéré. Est-ce que finalement, guerre menée contre le régime des Mollahs n'est pas un échec?
Regardez ce que j'ai dit exactement. Et ce qu'a dit le Premier ministre. C'était détruire les capacités de l'Iran de développer l'arme nucléaire. Ils n'ont plus de capacité de développer
l'arme nucléaire. C'est le stock d'uranium,
c'est une certitude.
Mais le stock d'uranium, vous savez, c'est comme si vous me demandiez, on a un stock d'engrais, on peut faire de cela une bombe d'une mégatonne, disons, comme de dynamite, et seulement il y a un processus chimique à faire. C'est ce qu'on appelle l'armement. Prendre cet uranium et en faire une bombe.
Donc là, c'est sûr, toutes les infrastructures
et tous les scientifiques qui étaient liés à ce projet. Les infrastructures ont été détruites, les scientifiques ont été éliminés.
Est-ce que le régime iranien
c'était le premier?
Non.
Non, attendez, il y avait 3 buts. Le premier était faire cela.
Donc ça, accompli.
Accompli. Le second, détruire les capacités balistiques iraniennes qui pourraient menacer l'existence de l'État d'Israël.
C'est fait aussi,
c'est accompli. Ils ont encore réussi à tirer quelques missiles. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont encore les capacités de menacer. Et le troisième objectif, je choisissais mes mots d'une façon très précise. Affaiblir suffisamment le régime afin de permettre au peuple iranien de prendre leur destinée en main.
Vous pensez qu'on en est là aujourd'hui?
Le régime aujourd'hui n'est plus le même régime que nous avions il y a...
Il est plus faible?
Il est beaucoup
Il y a eu un
faible.
Changement de régime?
C'est pas un changement de régime.
C'est ce que dit Donald Trump.
Il y a eu un changement dans le régime. Le régime que nous connaissions, que j'avais étudié sur le dossier que je travaillais pendant si longtemps, n'existe plus.
Les Mollahs, le régime des Mollahs n'existe plus.
Oui, mais les gardiens de la Révolution sont là.
Le régime des
religieux,
Mollahs, comme nous le connaissions.
Ouais, il est fini.
Il est fini.
Mais les gardiens de la Révolution sont toujours là.
Il y a un autre régime aussi dans
déterminé.
Le cadre. Quand on parle d'un nouveau régime, c'est une nouvelle. La prise de décision n'est plus la même.
Ils sont au pouvoir, les gardiens de la Révolution.
Oui, non, mais ils sont au pouvoir, effectivement, mais c'est des voyous, c'est pas des religieux. Il y a une énorme différence entre des gens qui
prennent
des
décisions. Ce sont des militaires qui sont peut-être plus durs encore que les Mollahs et qui vont continuer à réprimer la population iranienne.
Mais qui n'ont aucune idéologie.
Et on peut plus facilement négocier avec eux?
Je ne sais pas si on peut plus facilement négocier avec eux, mais on peut plus les déterrer, les dissuader, pardon.
Mais parce que on a l'impression
parce que dans l'Iran, le régime des Mollahs voulait la destruction d'Israël.
Oui.
D'accord. Est-ce que ces nouveaux interlocuteurs veulent toujours la destruction d'Israël?
Franchement, je suis aujourd'hui incapable de vous dire quel est le régime iranien. Je pense que.
Mais il faut discuter avec eux.
Franchement,
pour savoir.
J'ai travaillé pendant longtemps sur le sujet. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis incapable de vous dire.
Attends.
Quel est le régime iranien? Je savais exactement quel était le régime iranien il y a 3 semaines, il y a 1 mois et demi.
D'accord.
Aujourd'hui, c'est totalement différent. C'est quelque chose de nouveau.
Il y a eu un changement dans le régime.
Il y a un changement dans le régime.
Et vous dites qu'il est plus faible.
Beaucoup plus faible.
Mais le New York Times, la presse américaine, le grand quotidien américain, raconte comment Donald Trump a pris sa décision d'intervenir et de mener cette guerre avec Israël. Et selon le New York Times, c'est Benjamin Netanyahou qui lui a vendu un scénario
éclair, c'est-à-dire une guerre éclair.
En quelques jours, le régime tomberait. Ce qui s'est produit.
Il ne faut pas croire tout ce qu'on lit sur les médias.
D'accord.
Alors, monsieur l'ambassadeur, vous faites preuve d'une grande habileté et c'est pour ça qu'on aime bien vous inviter sur le plateau. Mais revenons aux faits. Vous avez dit, nous avons, avec Donald Trump, préparé le cessez-le-feu.
Le Premier ministre.
Oui, quand Benjamin Netanyahu et Donald Trump ont négocié ensemble pour aboutir à un cessez-le-feu. Le cessez-le-feu a été déclenché et le lendemain de la mise en œuvre du cessez-le-feu, Israël bombarde.
Non,
est-ce que...
C'est pas le lendemain.
Je parle du Liban.
Le jour même, l'Iran a tiré 3 fois des salves de missiles contre Israël. Le jour même.
D'accord.
Mais si on parle justement de violation du cessez-le-feu, c'est l'Iran qui a violé ce cessez-le-feu. Okay. Et ensuite, l'Iran a aussi tiré.
Question, monsieur l'ambassadeur.
Non, mais attendez, il faut dire les choses comme elles sont. L'Iran a tiré sur Israël le jour même, après avoir signé le cessez-le-feu, et l'Iran a tiré sur les Émirats et sur le Koweït. Le jour même.
Dont acte. Mais, vous avez, vous, Israéliens, le Premier ministre israélien et Donald Trump, préparé ce cessez-le-feu, et Israël, selon vous, l'approuve. Est-ce que, en bombardant, comme vous l'avez fait, avec autant de violences et de victimes civiles, le Liban, vous n'êtes pas en train, est-ce qu'Israël n'est pas en train de saboter
Est-ce que vous pensez vraiment que le cessez-le-feu, c'est la question que tout le monde se pose. Je vais y répondre, mais je commence à y répondre par une question. Est-ce que vous pensez que vraiment que les Iraniens, que le régime iranien, ce qui reste de ce régime, s'importe d'une façon, n'importe quelle façon, des civils au Liban? Ce qu'ils veulent, c'est que l'Hezbollah ne soit pas désarmé. Et qu'ils puissent encore utiliser le Hezbollah. Ils s'en fichent complètement du Liban. Ils s'en moquent du Liban. Pour eux, le Liban est un outil, n'est pas un pays avec qui ils doivent vivre en paix. Pour nous, c'est un pays avec lequel nous voulons vivre en paix. Pour eux, c'est un outil pour menacer Israël, qu'ils utilisent pour menacer Israël.
Et alors, ma question, alors que le cessez-le-feu entre en vigueur, est-ce que vous n'êtes pas en train, de facto, de saboter ce cessez-le-feu?
Non, c'est les Iraniens qui sabotent le cessez-le-feu, qui ont saboté le cessez-le-feu en tirant une dizaine de missiles sur Israël et sur leurs voisins, et nous n'avons pas réagi à cela. N'oublions pas, nous n'avons pas réagi à cela. C'est justement pour maintenir le cessez-le-feu.
Merci. En tout cas, ce soir, on rappelle l'information principale, le Premier ministre israélien aurait donc ordonné à son cabinet d'engager des négociations directes avec le Liban.
C'est un changement majeur.
Voilà, donc c'est peut-être quand même l'information principale ce soir qu'on va bien sûr continuer.
Merci, monsieur l'ambassadeur d'Israël.
Merci à vous.
Je suis à Jarka d'avoir été avec nous. La perspective, c'est l'ouverture de négociations vendredi, samedi, au Pakistan, délégation américaine, délégation iranienne, mais enfin, toujours est-il que pour le moment, au Pakistan, le Premier ministre est en colère avec ce qui se passe entre Israël et le Liban. C'est ce que nous raconte justement notre correspondante au Pakistan, Ondine de Gaulle.
Le Premier ministre Shehbaz Sharif a réagi fermement. Il a publié un communiqué dans lequel il indique que les actions israéliennes au Liban sapent les efforts internationaux visant à instaurer la paix et la stabilité dans la région et constituent une violation du droit international. Il appelle également la communauté internationale à prendre des mesures urgentes pour mettre fin à l'agression israélienne contre le Liban. Ces déclarations interviennent alors que dans ses premières réactions, le Premier ministre pakistanais indiquait que le cessez-le-feu inclut également le Liban, ce que Tel Aviv a démenti. De son côté, le Premier ministre libanais Nawaf Salam a demandé à son homologue pakistanais de confirmer que la trêve entre l'Iran et les États-Unis incluait bien le Liban. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que le Pakistan n'a pas de relation avec Israël qu'il ne reconnaît pas et dispose de peu de leviers sur ce volet du conflit. Mais du coup, ce que l'on observe depuis l'annonce du cessez-le-feu, c'est une forte proactivité de la diplomatie pakistanaise. Ces différents acteurs poursuivent leurs efforts en appelant les différentes parties à la désescalade. Ils ont également engagé des démarches auprès de plusieurs pays de la région, ainsi qu'auprès de l'Union européenne pour faire passer des messages et exprimer leurs inquiétudes concernant la violation du cessez-le-feu au Liban. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'objectif pour Islamabad est le maintien du cessez-le-feu à tout prix, ainsi que la poursuite des négociations. Le Pakistan a engagé une part importante de sa crédibilité diplomatique dans cette médiation, et depuis hier, les autorités ont déployé de très importants moyens pour assurer la sécurité de la tenue des pourparlers dans la capitale.
Donc, en attendant de savoir ce qui va se passer au Pakistan, la dernière information de la soirée, c'est bel et bien peut-être ce début de dialogue qu'il pourrait y avoir entre le gouvernement israélien et le gouvernement libanais, Benjamin Petrovert.
Ce serait un moment historique. Il faut bien le dire, il faut bien comprendre que dans la carte, si on voit la carte d'Israël et de ses voisins, les plus grands ennemis historiques, en fait, c'était pas du côté du Liban. Quand vous remontez l'histoire, en 1948, lors de la création de l'État d'Israël, les plus grands ennemis, c'était qui ? C'était l'Égypte et la Syrie. L'Égypte, premier accord de paix, on s'en souvient, 78-79.
Le président Sadat.
C'est la paix avec l'Égypte et Sadat. La Jordanie, paix en 93. La Syrie, avec la chute d'Assad, le pouvoir actuel a fait comprendre, dès le début, que sa priorité, c'était pas de faire la guerre à Israël. Donc au final, le seul pays avec lequel il y a un problème, c'est du côté du Liban. Et vous avez entendu l'ambassadeur l'expliquer, et c'est vrai quand on remonte l'histoire, ce ne sont pas les peuples libanais et israéliens qui sont ennemis. C'est à partir, grosso modo, des années 60, quand Yasser Arafat a fait monter l'OLP pour s'abriter au sud Liban. Et les terroristes, à l'époque, partaient du sud Liban pour perpétrer des attentats dans les villes du nord d'Israël. Il y a eu un attentat tristement célèbre à la fin des années 70, qui est dans la ville de Mahalot, au nord d'Israël, où des terroristes sont venus du Liban, sont rentrés dans une école et ont mitraillé des enfants, des professeurs. Ça a été un véritable carnage. Et depuis, le sud Liban était connu comme un territoire dangereux et hostile. Et après l'OLP, eh bien, c'est le Hezbollah qui en a fait son terrain de jeu. Aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'il y a déjà une frontière. Cette frontière, elle est maritime. Il y a eu un accord maritime entre le Liban et Israël il y a quelques années. Sur le plan terrestre, il n'y a pas de litige. Si l'on exclut les fermes de Sheba, ce minuscule secteur de quelques kilomètres, mais ça n'est pas une question. Autrement dit, entre le gouvernement libanais et le gouvernement israélien, il n'y a au fond pas tellement de raisons de ne pas faire la paix.
Mais alors, moi je voudrais comprendre, parce que la situation libanaise est complexe, elle l'est depuis très longtemps, Bertrand Galichet, avec qui Israël peut-il négocier ? Parce que le problème du Liban, c'est pas l'État libanais, c'est le Hezbollah qui a à la fois une représentation politique et a aussi des activités terroristes. C'est une milice. Donc quand Netanyahou annonce vouloir négocier avec le Liban, avec qui il va négocier ? Qu'est-ce qu'il peut négocier ?
C'est tout le cœur du problème, parce que effectivement, même si c'est un moment particulier, alors historique, je ne sais pas, l'avenir nous le dira, mais c'est vrai que ça n'est pas pour l'instant quelque chose qui soit arrivé de façon aussi formelle. Même si ces négociations ont lieu, elles vont réunir qui finalement ?
Est-ce que ce qui on met autour de la table ?
Le président libanais Joseph Aoun avec monsieur Netanyahou, est-ce que ce sera le premier ministre libanais, peut-être aussi le président du parlement qui est chiite. Je rappelle quand même il y a quasiment un tiers de la population libanaise qui est chiite. Alors naturellement ces chiites ne sont pas tous adhérents ni soutiens du Hezbollah, il faut le rappeler, mais le Hezbollah quand même
ça représente le Hezbollah sur la population libanaise.
C'est très difficile à dire parce que, si vous voulez, le problème, c'est que le Hezbollah, il n'est pas seulement une force militaire, on le rappelle souvent, c'est aussi une force politique.
Avec des députés.
Avec des députés, des membres du gouvernement, par épisode, qui sont arrivés avec plus ou moins en force, et puis surtout une force économique. Et d'ailleurs, souvenez-vous, il y a eu beaucoup de cibles économiques, notamment des systèmes de réseaux bancaires qui ont été frappés par les Israéliens au cours
Est-ce qu'on peut imaginer le Hezbollah autour de la table ?
Mais ça va être très compliqué de ne pas les inviter. Ouais. Si on fait comme on le fait jusqu'à présent, c'est-à-dire on considère que l'interlocuteur, c'est le gouvernement, les autorités légitimes libanaises, et exclusivement, eh bien, il y aura peut-être un accord, et cet accord ne vaudra rien du tout, parce que le cœur du problème, c'est cette organisation terroriste qui finalement imprègne totalement la société libanaise, encore une fois, dans une certaine mesure, pas complètement, mais qui pour l'instant est indéboulonnable.
Il y a déjà eu des cessez-le-feu signés avec le Hezbollah. Il y avait des engagements, le désarmement du Hezbollah. Bon, tout ça ne s'est pas fait et on l'a déjà rappelé, il y avait beaucoup de difficultés de faire appliquer ces mesures. Mais là, on entend le ministre Katz, ministre israélien, dire le Hezbollah veut un cessez-le-feu après les frappes. Est-ce que c'est crédible ?
Est-ce que ça corroborait les propos de l'ambassadeur qui disait tout à l'heure que les tirs israéliens ont permis de grandement affaiblir les capacités du Hezbollah ? Il a dit aussi quelque chose d'important, que sur les 6000 tirs de missiles, roquettes et drones venus du Liban, 3000 venaient du sud Liban. Autrement dit, de la zone où justement il y avait l'engagement à désarmer le Hezbollah. Pour revenir à cette idée de paix entre Israël et le Liban, il y a aujourd'hui une frontière maritime commune. Pourquoi ? Pourquoi il y a un accord seulement sur une frontière maritime ? parce qu'il y avait du business à faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a une poche de gaz qui a été trouvée, qui s'appelle le Léviathan, et que et le Liban et Israël cherchent à exploiter. Et là, comme par hasard, les deux pays ont réussi à se mettre autour de la table pour discuter et se mettre d'accord à une frontière maritime pour que cette poche de gaz soit exploitée de manière équitable. Donc en fait, on a bien compris que tout est souvent histoire de business, et s'il y a un business à faire sur le point de vue terrestre, il y aura aussi une frontière terrestre entre les deux pays qui sera claire et trouvée.
Le général Sidos est avec nous, et c'est important de vous avoir, puisque vous avez dirigé la FINUL, cette force intérimaire des Nations Unies au Liban. Oui, vous étiez l'un des responsables, chef du bureau de liaison de la FINUL. La FINUL qui est toujours sur place, qui doit terminer d'ailleurs sa mission.
Oui, à la fin de l'année.
Prochainement. Est-ce que c'est un espoir ce soir, ces négociations annoncées par le Premier ministre israélien?
Oui, de toute façon, très honnêtement, c'est exactement ça que j'attendais. Parce qu'en fait, il y a toujours un moment où le Hezbollah négocie, se met à la table. Alors, il passe effectivement par l'intermédiaire du gouvernement libanais, ce qui est un peu embêtant, parce que nous, par exemple, à la FINUL, on avait ce qui s'appelle des réunions tripartites. Sur un poste de la FINUL, il y avait des généraux libanais, des officiers israéliens et au milieu la FINUL, puisque les Libanais n'ont pas le droit de parler aux Israéliens, c'est un crime. C'est condamné.
Ah bon ?
Ah oui, c'est condamné. Vous n'avez pas le droit de parler à un Israélien. Bon, donc c'est la FINUL qui parlait. Alors après, quand il y avait un déjeuner, bah les Libanais s'en allaient parce qu'ils ne pouvaient pas parler avec les Israéliens. Donc on faisait
c'est
l'intermédiaire.
Compliqué pour négocier quand même.
Bah ils passaient par nous.
Voilà.
Ils passaient par le bureau de la liaison, exactement. Donc on traduisait. Alors il est évident qu'à l'époque, entre 2006 et 2023.
Pardon, mais parce que là, ce que vous venez de dire, moi, me sidère. C'est-à-dire que n'importe quel Libanais n'a pas le droit de parler à n'importe quel Israélien.
Non.
Au-delà même des responsables.
Oui, c'est le problème, justement, il va falloir régler ça.
Vous confirmez, Benjamin?
Je le découvre, mais ce que vous décrivez me rappelle exactement Camp David. C'est-à-dire que la délégation israélienne, absolument, en 78, la délégation israélienne est d'un côté, la délégation égyptienne de l'autre, et c'était les Américains qui faisaient le yo-yo entre les deux délégations parce qu'ils ne se parlaient pas directement.
Le Liban n'a pas reconnu Israël, enfin c'est plein de problèmes. Donc ils passaient par nous. Dès qu'ils avaient quelque chose à dire, ils passaient par nous. Alors il fallait évidemment traduire la façon dont les Israéliens présentaient les choses, traduire la façon dont les Libanais présentaient les choses. Mais bon, il arrivait un moment, mais effectivement, à cette époque-là...
Combien de temps peut durer un cessez-le-feu? Parce que vous dites que le Hezbollah...
Il a duré de 2006 à 2023.
A déjà signé des cessez-le-feu.
Déjà, il a duré
de 2006. Mais est-ce que le Hezbollah peut être un interlocuteur, oui ou non?
Il est un interlocuteur... De ce que j'ai connu, il était un interlocuteur à travers les autorités libanaises, à travers les officiers libanais.
Oui, mais vous dites 2006-2023, mais en même temps, tout à l'heure, vous nous avez dit, ils en ont profité pour se réarmer, faire des tunnels.
Problème, voilà,
donc, est-ce que c'est signer un cessez-le-feu pour reprendre des forces, en quelque sorte, et donc on ne règle pas le problème?
Alors, le problème, c'est que la FINUL était très forte en 2006, mais vraiment très forte. Par exemple, les Français, il y avait des pièces d'artillerie, il y avait des chars. Et puis après, tout doucement, les effectifs ont baissé. Tout doucement, parce que la situation était relativement stable. On vivotait, faut être honnête. Et le Hezbollah a pu reprendre du poil de la bête.
C'est quand même ça le risque.
Oui,
et donc puis, finalement, on se retrouve ensuite dans quelques années à discuter de la même chose.
Ce qui vient d'être dit est très intéressant, parce que vous disiez effectivement le gouvernement libanais, le Hezbollah parlait à travers le gouvernement libanais, d'une certaine façon, sauf que le Hezbollah est le représentant de l'Iran. Et c'est ça la question finalement, c'est que, vous voyez, ce sont des poupées russes. Il y a un interlocuteur qui parle au nom d'un interlocuteur et d'un troisième. Ce qui fait que le dialogue finalement, il est faussé dès le départ, et tant qu'il n'y aura pas un dialogue, ou en tout cas une négociation entre Israéliens et Iraniens, eh bien, on n'avancera pas. Et le gouvernement libanais peut signer tous les accords qu'il veut. Tant que les Iraniens n'auront pas dit « on fait la paix ou on continue la guerre », eh bien, la situation restera telle qu'elle est.
Alors, je voudrais que l'on soit en direct avec Michel Elou. Michel Elou, il est secrétaire général du parti libanais laïque et réformiste qui s'appelle le Bloc National. Et c'est l'ancien directeur de la revue du journal L'Orient le Jour. Bonsoir Michel Elou. À l'instant, du côté d'Israël, on dit avoir ordonné d'engager des négociations directes avec le Liban. C'est un signe d'espoir, là, au milieu de ce qui se passe, de ces bombardements incessants?
Absolument, c'est un signe d'espoir, mais je pense qu'il faut être aussi réaliste sur la situation. C'est-à-dire que ça vient dans un contexte dramatique. Hier, on a vécu une journée noire. On parle de plus de 250 morts au Liban, dont des centaines de civils. On parle de plus d'une centaine de cibles, et notamment beaucoup de cibles civiles qui ont été détruites, bombardées par les Israéliens, des immeubles d'habitation, des ponts, des rues. Il y a eu un enterrement qui a été bombardé dans la Beka. Donc, c'était une journée absolument dramatique. Les gens sont traumatisés, et en particulier, ça a été la pire journée pour notre capitale, Beyrouth, depuis des décennies. Donc, le contexte est extrêmement, extrêmement tendu. Les gens n'ont pas confiance en Israël. Mais évidemment, dans cette situation, peu importe la difficulté de la situation, il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui qu'une solution diplomatique pour nous sortir de cette guerre des autres qui est en train de se jouer sur notre territoire, qui a détruit notre pays depuis bientôt 60 ans, depuis la fin des années 60, c'est ça la réalité. Ouais. Donc aujourd'hui, toute initiative diplomatique est bienvenue.
Michel Elou, est-ce que ça veut dire que le Liban est otage du Hezbollah et tant que le Hezbollah ne sera pas désarmé, ça continuera ?
Absolument, absolument. Et je pense qu'il faut être très clair. La réalité, c'est que le Liban ne peut vivre ni sous occupation et sous agression israélienne permanente, évidemment, ni sous l'emprise du Hezbollah. Le Liban ne peut pas cohabiter avec le Hezbollah. On a longtemps essayé cette formule-là. Elle ne fonctionne pas. Et donc, il est impératif d'appliquer les décisions qui ont été prises plusieurs fois depuis 2005 déjà avec la résolution 2004-2005, la résolution 1559 des Nations Unies qui appelait tout d'abord au désarmement du Hezbollah jusqu'à la dernière décision du Conseil des ministres qui dit très clairement les activités militaires et sécuritaires du Hezbollah sont interdites, elles sont bannies. Le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on a un gouvernement et une armée qui n'est pas encore en train d'appliquer ces décisions.
Alors justement, Michel Elou, ce qui est intéressant quand même, c'est que le Premier ministre libanais a clairement appelé aujourd'hui à démilitariser Beyrouth. Et c'est d'ailleurs suite à cet appel que le Premier ministre israélien dit « bon bah allons-y sur les négociations ». Donc on voit que ça bouge, mais est-ce que le gouvernement libanais a les moyens de désarmer le Hezbollah ?
Alors, le gouvernement libanais a certains moyens. On a une armée qui est évidemment pas une armée extrêmement avancée, qui est dans un pays en faillite. En plus, ça fait 6 ans qu'on traverse une crise économique absolument dramatique. Donc, on a des moyens limités, mais on a quand même les moyens de s'activer. Et c'est pour ça que je profite d'être là à la télévision française pour aussi faire un appel au gouvernement libanais pour qu'on prenne des décisions et qu'on les applique. C'est-à-dire que les décisions, elles commencent à être prises, mais sur le terrain, opérationnellement, on n'est pas encore en train de vraiment les implémenter. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, quand on parle de démilitariser Beyrouth, ça veut dire de vraiment faire des barrages routiers, ça veut dire de vérifier l'identité des gens qui rentrent dans Beyrouth, spécifiquement s'assurer qu'il n'y a pas de combattants libanais ou iraniens ou autres, qu'il n'y a pas de commandants des gardiens de la Révolution qui se cachent dans les immeubles civils. Ça, c'est quelque chose d'absolument nécessaire. Il faut que l'armée reprenne le contrôle du territoire. Ça fait des années qu'on demande ça, et spécifiquement depuis l'an dernier, depuis la dernière guerre. Et aujourd'hui, il y a, j'espère que Israël va réduire et arrêter ces frappes et ces bombardements, la destruction permanente, pour permettre à l'armée libanaise d'avancer. Maintenant, l'armée a aussi besoin de soutien. Il y a un ancien général de la FINUL qui est présent sur le plateau. Oui. L'armée libanaise a évidemment besoin de soutien. Elle a besoin de beaucoup plus de soutien. Donc, c'est là aussi où on aura besoin du gouvernement français, qui est un allié historique, mais aussi d'autres gouvernements, pour soutenir et armer l'armée libanaise afin qu'elle entame son travail de désarmement du Hezbollah.
Mais Michel Elou, une dernière question. Tout à l'heure, nous étions avec l'ambassadeur d'Israël en France et on évoquait ces frappes, cette intensification des frappes et ces blessés, ces morts, toutes ces victimes. Et ben oui, mais c'est la guerre. Voilà, c'est la guerre, on vise, et malheureusement, il y a des victimes collatérales, parce que c'est un conflit, il y a des familles, des enfants qui meurent, parce que c'est la guerre.
Oui, c'est un peu facile comme justification. On est à près de 2000 morts, dont des centaines de civils. On sort d'une guerre en 2024, où il y avait eu également plusieurs milliers de morts. On était à 6000 morts et des dizaines de milliers de blessés. Donc, le prix qu'on paye, le prix que le Liban paye est absolument dramatique. Le prix humain, le déplacement, on a plus de 1,2, 1,3 million de déplacés. Et il ne faut pas oublier aussi que tout ça se joue avec une sorte de bande sonore israélienne fanatique, le messianisme permanent des ministres d'extrême droite israéliens qui disent qu'ils vont occuper le sud du Liban, qu'ils vont prendre jusqu'aux Litanies, que tout ça c'est le grand Israël, etc.
Ce soir, on parle de négociations en Israël.
Ça traumatise énormément les Libanais qui n'ont confiance ni dans le Hezbollah, ni dans l'Iran. La majorité des Libanais aujourd'hui veulent que le Hezbollah soit désarmé, mais ils n'ont pas confiance du tout en Israël non plus. Évidemment, vu le comportement israélien pendant la dernière période.
Merci Michel Elou.
On va continuer de parler justement des conséquences de ce qui s'est passé hier avec vous, Élise Le Sieur, puisque vous êtes la directrice des opérations internationales de Médecins du Monde. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le jour d'après ?
Ah bah du coup ça a été vraiment une journée extrêmement difficile pour les Libanais et notamment effectivement pour les habitants de Beyrouth hier. Nous on est présents Médecins du Monde depuis 30 ans au Liban et c'est vrai que pour nous ça a été vraiment une journée noire et de la difficulté d'opérer hein, dans des conditions où
pourquoi c'était difficile ?
Et bah quand on se prend une centaine de bombes en quelques minutes sur la tête alors qu'on est auprès de nos bénéficiaires, oui c'est difficile d'opérer, c'est difficile de soigner. Je tiens aussi à appuyer sur le fait qu'en fait, c'est un système de santé qui a déjà beaucoup souffert. On a parlé des différents conflits ces dernières années. Et puis, depuis le début du conflit, depuis le 2 mars, il y a déjà 5 hôpitaux qui sont non fonctionnels, qui ont été touchés. Plus de 50 structures de santé aussi qui sont non opérationnelles. Donc, c'est aussi un non-respect du droit humanitaire international que d'attaquer des structures, et notamment des structures de santé.
Avec la difficulté de donner un bilan précis hein, de ce qui s'est passé hier, on parle de plusieurs centaines de morts, mais pour l'instant, il faut être très prudent, parce qu'on n'a pas identifié tous les corps.
Tout à fait, ça met toujours du temps, le temps d'aller chercher les corps dans les décombres, d'identifier les gens, et puis en fait, la conséquence, elle n'est pas toujours immédiate, hein, le décès, mais parfois aussi quelques jours malheureusement à arriver. Ce qui est difficile, c'est des structures qui sont débordées et qui ne sont pas en capacité de soigner correctement.
Vous avez besoin de quoi sur place, Médecins du Monde ?
Ah ben, de toute façon, le besoin immédiat, c'est du médicament, c'est du personnel de santé, c'est d'aller vers, on le disait à l'instant, il y a 1,2 million de personnes déplacées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Liban, une personne sur cinq a dû quitter brutalement son foyer et partir potentiellement sans aucune affaire. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des regroupements collectifs, hein, des hébergements collectifs pour ces personnes déplacées. Il y a seulement 12% de ces déplacés qui sont hébergés. Ça veut dire que les autres sont dans leur voiture, dans la rue.
C'est une catastrophe humanitaire.
C'est une catastrophe humanitaire. Oui, et je pense qu'il faut vraiment dire les mots. Et la population civile paye vraiment un très lourd tribut.
Les autorités françaises ont dit qu'elles allaient justement aider sur place. Comment justement un gouvernement comme le gouvernement français peut apporter de l'aide au Liban et à la population ?
C'est vrai qu'il y a eu des envois de médicaments notamment, mais pour l'instant on envoie un peu au compte-gouttes. L'objectif, c'est qu'il y ait aussi un investissement et un support des organisations telles que les nôtres, Médecins du Monde, mais d'autres organisations qui sont sur le terrain et qui ont besoin d'apporter du soutien sur du long terme. On parle des maladies chroniques, on parle des maladies infectieuses, puisque les conditions sanitaires de vie sont catastrophiques, mais on parle aussi des enjeux d'alimentation et de la santé mentale. Il faut comprendre aussi l'impact que ça a pour les populations, là, d'être déplacées brutalement. Et encore une fois, c'est un conflit qu'ils revivent régulièrement avec ce stress permanent, et ils ne savent pas concrètement s'ils pourront retourner dans leur habitation demain.
Benjamin Petrovert, dans tous les cas, peut-être que les bombes vont se calmer s'il y a ce début de discussion entre Israël et le Liban, tel que c'est perçu peut-être ce soir.
Oui, et ça pourrait aller très vite selon Axios, puisqu'il semblerait qu'on a déjà la table des négociations. Elle se tiendrait dès la semaine prochaine. On parle de négociations directes entre Israël et le Liban avec une première réunion
on dit bien avec
au ministère
le Liban.
Direct.
Donc c'est le gouvernement libanais.
Exactement.
Là,
du côté américain, les discussions seraient menées par l'ambassadeur des États-Unis au Liban, Michel Issa. Du côté israélien, ce serait l'ambassadeur d'Israël à Washington, Yehiel Leiter. Et du côté libanais, on aurait l'ambassadrice à Washington, Nada Mohammad. Négociations directes donc entre Israël et le Liban qui débuteraient la semaine prochaine au ministère des Affaires étrangères à Washington. Ça va très vite, c'est très prometteur. On serait tenté de pas y croire, tellement on passe d'une phase extrêmement violente que vous venez très justement de décrire à une phase de paix. Mais après tout, c'est ça aussi l'histoire. C'est peut-être un grand moment qui va se jouer.
Donc on va assister
après cette phase de violence.
Ulysse, on va assister donc à partir de ce week-end à deux moments de négociation, mais séparés. Négociation sur le Liban et négociation sur un cessez-le-feu plus durable entre les États-Unis et l'Iran. Mais tout ça, bien sûr, est très
fragile. Oui, alors les négociations
d'abord, Washington.
Les négociations sur l'Iran, c'est à plus haut niveau, hein, parce qu'on parle du président du Parlement iranien, le vice-président des États-Unis, J.D. Vance. À Islamabad.
C'est confirmé, J.D. Vance à Islamabad ?
C'est ce qui a été annoncé hier par la Maison-Blanche. Donc, on verra si ça tient. Parce qu'il y a beaucoup d'Américains, des services de renseignement qui s'inquiètent sur la sécurité d'une telle délégation et avec le vice-président, ça peut poser un problème. La grande nouvelle du jour, si vous voulez, c'est que la guerre au Liban menée par Israël et le Hezbollah a démarré le 2 mars. Et c'est la première fois depuis le 2 mars, donc ça fait un peu plus d'un mois, qu'il y a une perspective de discussion. Ce qui est important, c'est que la négociation a lieu à Washington. Et ce que l'on peut dire avec beaucoup de certitude, c'est que Donald Trump a forcé la main de Netanyahou pour l'obliger à entamer des négociations que réclamait le gouvernement libanais depuis plus de 3 semaines. Ce qui est important, c'est que ce n'est pas une négociation au plus haut niveau. C'est pas Netanyahou face au premier ministre
ou au président
du Liban. C'est d'ambassadeur à ambassadeur. Et ce qui est important aussi et surtout, c'est que quand Israël, qui a annoncé la négociation, Israël dit nous allons négocier le désarmement du Hezbollah, qui est l'objectif le plus important, évidemment, d'Israël. Donc, c'est dans ce cadre-là que la négociation va avoir lieu et c'est très important parce que ça ne veut pas dire que l'intervention militaire israélienne va s'arrêter, hein, parce que pendant les négociations, la guerre peut continuer. Mais c'est le premier geste, la première ouverture, si vous voulez, la première éclaircie dans un ciel assombri par les bombes et les roquettes.
Et puis, il y a un autre point de fixation aussi qu'il faut regarder ce soir encore, c'est le détroit d'Ormuz. Détroit d'Ormuz où la circulation des bateaux n'a pas repris, où c'est l'Iran qui tient encore le détroit. Boris Kharlamov, vous êtes aux Émirats Arabes Unis, vous êtes à Abu Dhabi pour BFM TV. Et du côté des Émirats Arabes Unis, on respire aussi parce qu'il n'y a pas eu de bombardement aujourd'hui.
Oui, absolument, Alain. Et cela, depuis hier soir, cela fait désormais 41 jours que les Émirats Arabes Unis et l'ensemble des pays des Golfes sont sous le feu nourri des Iraniens. Mais pour la toute première fois depuis le début de cette guerre, aucun missile balistique, aucun drone iranien n'a été tiré contre les Émirats Arabes Unis, tout comme sur l'ensemble de ces pays du Golfe, le Qatar, Bahreïn, Koweït, l'Arabie Saoudite ou encore Oman. Le ministère émirati de la Défense qui confirme que l'espace aérien des Émirats Arabes Unis est exempt de toute menace aérienne au cours de ces dernières heures. Hier encore, pas moins de 17 missiles et 35 drones iraniens avaient été interceptés par le système de défense aérien ici aux Émirats Arabes Unis. Donc un répit synonyme de soulagement pour les habitants d'Abu Dhabi. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions recueillies au micro de Margot Sève.
C'est vraiment une bonne nouvelle pour nous, que la vie redevienne normale. Vous pouvez voir que les gens reprennent leur quotidien. Je suis venu avec ma famille et mes enfants jouent. On est vraiment heureux maintenant. Abu Dhabi, c'est vraiment très sécurisé, c'est très bien. C'est vraiment le meilleur pays au monde et je suis vraiment très heureux.
I am very happy.
Et un retour à une vie normale, alors qu'il faut dire que depuis le début du conflit, les défenses aériennes des Émirats Arabes Unis ont intercepté un total de 537 missiles balistiques, 26 missiles de croisière et pas moins de 2256 drones. Hier, le ministère émirati de la Défense a estimé dans un communiqué que l'Iran devrait être tenu responsable et pleinement redevable des dommages et des réparations causées par ces attaques dans les pays du Golfe, tout en demandant des éclaircissements à Washington sur les modalités de cette trêve.